Ah, je reçois une notification.
Alors.
Ouais.
Bezrat Hashem, bonjour tout le monde.
Salut.
Avec l'aide de Dieu, voilà. Ah. Plein mois de Elul, en pleine période de Slichot, Baruch Hashem.
C'est beau.
Donc on va faire un petit cours en direct. Bezrat Hashem. En espérant que vous serez nombreux à regarder ce cours et à partager autour de vous. Faire un maximum de Zikoui Arabim avec l'aide de Dieu. Donc, on va. C'était quoi ta question, Eran?
Ma question?
Ouais, t'avais une question. Vas-y, repose ta question. Vas-y, repose-la.
Sur
la paracha qui t'y sait. Ouais.
Oui. Pourquoi on autorise. On donne une solution, en fait, sur qui t'y sait à pour une personne qui va en guerre. On lui donne la solution d'avoir une autre femme Goya.
Ah, donc. Pourquoi dans la paracha on nous dit qu'un homme qui sort en guerre,
d'accord, solution, en fait,
contre des ennemis, s'il voit une femme qu'il désire dans cette paracha là, qui pourra la prendre chez lui,
faire toute la procédure,
bon, laisser durant un certain temps cette femme s'avilir, entre guillemets, l'avilir, pour voir s'il y a toujours ce désir et cette envie de s'unir à elle, d'accord. Pourquoi il y a un tel yetzer hara quand on sait aujourd'hui que. Il y a différents problèmes à l'Afrique par rapport à ça. On est d'accord? Oui ou non? Alors pourquoi la Torah autorise une chose pareille? C'est ça ta question?
Oui.
Pour te répondre, on va te répondre par une Gemara très connue. Il y a une Gemara qui pose la question, qui est le plus grand sadique? Avraham Avinu ou David Améler? Maintenant, c'est une question intéressante, parce que Avraham et David, ils n'ont pas du tout vécu à la même période. Donc on ne voit pas l'intérêt de la question. Oui? C'est comme on dit... Noir, Ish Tzadik Tamim, Ayal et Dorotav. Donc un homme, d'accord, juste et pur, il a été durant sa génération. La Gemara pose la question, c'est est-ce que Noir était un plus grand Tzadik que Avraham Avinu ou non? Ça veut dire, est-ce que Avraham, s'il avait été durant cette génération-là, la génération du déluge, est-ce qu'il aurait été le plus grand tzaddik que Noé? Ça veut dire, c'est quoi la véritable question? Est-ce que Noé, c'était le plus grand tzaddik de sa génération? Ou c'était le moins pire de sa génération, ce qui a fait de lui le plus grand tzaddik de sa génération? D'accord? C'est ça la question qu'on pourrait poser. Donc, de la même façon, quand on pose la question, qui est le plus grand tzaddik entre Avraham et David Améler, qui n'ont pas vécu à la même période historique, la période historique joue énormément. D'accord? Donc, on ne peut pas savoir qui est le plus grand tzaddik en fonction de... des réactions de chacun. Mais pour bien expliquer, on prend l'exemple de Avraham. Avraham, jeune, il dit à son père Terah, qui était le principal fabricant d'idoles de l'époque, ok, c'était le Bill Gates de sa génération, comme aujourd'hui les ordinateurs, on en trouve dans tous les foyers. À cette époque-là, les idoles, on en trouvait dans tous les foyers. Le principal fabricant, c'était Terah, c'était un business familial. Quand Avraham il dit, mais papa, pourquoi? Qui a créé la lune, le soleil, etc.? C'est pas possible qu'eux ont créé ce monde. Le père dit à Avraham dans le Midrash, nous ne sommes pas idolâtres, nous ne croyons pas aux idoles, nous n'y croyons pas. Mais c'est le business familial, c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Il a tenu tête à son père, il a détruit toutes les idoles dans la maison de son père, d'accord? On voit que Terah a dû cacher son fils dans des grottes, et l'isoler parce que le roi Nimrod de l'époque voulait mettre à mort Avraham. Ouais. Et là-bas, Dieu se dévoile à Avraham Avinu. D'accord? Et à sa génération, il n'y avait personne d'autre qui croyait en un Dieu unique. C'est le père de tout le monothéisme. Il y a Noé à l'époque du déluge, etc. Mais après, entre Noé et jusqu'à Avraham, il n'y avait quasiment pas de monothéistes. C'est Avraham qui est venu, qui a réintroduit cette notion de monothéisme dans le monde. D'accord? Donc, comment tu peux le comparer à David Améler? Maintenant, de l'autre côté, David Améler, quand il était petit, il a été soupçonné d'être un enfant adultérin par son père. Ils l'ont mis de côté. Oui? Il a, à l'âge de l'adolescence, il est venu, il a défié Goliath. Durant la guerre, il a eu le mérite d'épouser Michal, qui a dénigré son mari. D'accord? Son beau-père a voulu le mettre à mort. Il est sorti en guerre contre son bon père. Son beau-père est sorti en guerre contre lui. Son fils Avshalom est sorti en guerre contre David. Et David, il s'est battu que pour une seule chose, pour pouvoir rétablir et construire le premier temple en Israël. C'est extraordinaire, oui ou non? Comment tu peux arriver à comparer ces bonhommes quand tu vois les deux vies, t'es tenté de dire quoi? Que un, il est arrivé, il y avait déjà le monothéisme, il y avait déjà le judaïsme. Alors c'est vrai qu'il a une vie compliquée, une vie dure dès qu'il était jeune, David Améler, qui passait ses nuits à prier Dieu, etc. C'est vrai, mais de l'autre côté, Avraham Avinu, il était seul au monde à sa génération. Et il a dû l'Ech Lecha, il est parti de la maison de son père, de tout ce qu'il avait, il a tout renié, il est parti de zéro avec sa femme Sarah, et avec son neveu Lot, avec une poignée d'hommes. Et combien d'épreuves il a eu en Égypte, avec Pharaon qui a pris sa femme, etc. Donc si tu compares les deux histoires, point par point, on sera tous tentés de dire, mais attends, si tu compares la structure en réalité, le Reka History, d'accord? Donc on voit en réalité, tu vois, la conjoncture, je ne sais pas comment on dit. Voilà, le mot là, il ne me vient pas, ok? Si tu vois en réalité, par rapport à la situation historique de l'époque, on sera tous tentés de dire qu'Avraham était un plus grand tzaddik que David. Et pourtant, qu'est-ce qu'on dit? On dit que David Améler était un plus grand tzaddik qu'Avraham. Pour quelle raison? Parce que David Améler, c'est un exemple, il arrive après le don de la Torah. Donc à partir du moment où il y a eu le don de la Torah, on a tous été ordonnés de devoir faire la Torah. Du fait que tu sois ordonné de devoir faire la Torah, tu as ton Yetzer Hara qui t'attaque sur tous tes mauvais penchants. Ce qui veut dire, alors qu'Avraham, lui, quand il a fait la Torah qu'il a fait, il a rapporté qu'Avraham, il aurait fait la quasi-totalité des mitzvot de la Torah, d'accord, plus ou moins. Et on voit, c'est encore un débat ça, mais on voit en réalité qu'Avraham Avinu, lui, à son époque, il n'a pas été ordonné de faire la Torah. Il a eu qu'une seule mitzvah, c'était la mitzvah de la Brit Mila. Il n'a pas eu tout le reste. Il n'a pas été ordonné de faire toutes les autres mitzvot de la Torah. Donc on voit quoi? On voit en réalité que, on dit que lorsque, du fait que toute la Torah qu'il a fait, c'était par chassidut, par mesure de grande piété vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et que ça lui faisait plaisir, il n'avait pas de mauvais penchant là-dessus. Alors que David Améler, il arrive à une génération où il est obligé de faire la Torah, on l'ordonne de faire la Torah. Regarde, je te donne un exemple. On est durant la période des Slichot. On te dit les Slichot, idéalement, quand tu lis le Nosach des Slichot, Al-Pisod, Al-Pikabala, c'est très bien de le faire avant le Netz, avant la Tfila du Netz, avant Amud HaShachar, avant que le jour se lève, proche de la Tfila du matin. D'accord? Idéalement, on se lève le matin, d'accord? Si on n'a pas fait Chatzot Alayla Tikkun Chatzot, on fait Tikkun Chatzot, et après on récite les Slichot, et on enchaîne directement avec la Tfila. C'est l'idéal. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le net en Israël est plus ou moins à 6h10, d'accord? Ce qui veut dire que tes Slichot, faudrait que tu les commences vers 5h, 5h moins 10. Est-ce que tu as envie de te lever 5h, 5h moins 10 pour faire tes Slichot? Tu vas me dire non. Tu vas me dire c'est compliqué. Tu vas me dire attends, Bouddha, moi je travaille, j'ai des enfants, j'ai une vie. Pour les Slichot, je ne vais pas me lever plus tôt, je suis fatigué. Alors on te dit, bah, tu peux faire à partir de Chatzot Alayla. Non mais c'est compliqué d'aller à la synagogue, Chatzot Alayla, etc., etc. Et pourtant, combien de personnes vont regarder ce cours et vont se coucher après Chatzot Alayla parce qu'ils ont regardé un film? Ou ils vont se lever plus tôt le matin parce qu'ils ont envie de regarder en direct live un match de boxe? Hein? Il y a eu le match du siècle récemment. Oui ou non? Combien sont partis le matin à 6h du matin regarder le match de boxe? Au lieu d'aller au Slichot, au lieu de faire la Tfila, durant la période des Slichot. On voit quoi en réalité par rapport à ça? On voit quoi en réalité? Bezrat Hashem, ça y est, on reprend. Avec l'aide de Dieu. Donc on voit quoi en réalité par rapport à ce que j'essaye de dire? C'est ton Yetzer Hara. Tu es ordonné de prier durant cette période-là. Tu es ordonné de faire tes chouvas. C'est dur, c'est compliqué. Parce que tu es ordonné. Parce qu'on t'a dit que tu dois le faire. On va revenir à ta question. De ce fait, qu'est-ce qu'elle te dit la Torah? Elle te dit parfois, tu as un Yetzer Hara qui est insurmontable. Tu sais qu'est-ce qu'on va te dire? On va te dire, tu sais quoi? T'es pas obligé. C'est ce qu'on te dit, les Slichot. Les Slichot, de les faire, Midat Hasidut. Celui qui a du mal à les faire, au moins le lundi et jeudi. Un Talmid Chacham qui va être fatigué pour enseigner la Torah ou pour pouvoir étudier la Torah, ne sera pas obligé de faire les Slichot. Mais après, toi, si tu es un Talmid Chacham, tu vas t'amuser à ne pas aller faire les Slichot. Vous avez connu, vous, quand vous étiez plus jeune, beaucoup de Rabbanim, Talmidei Chachamim, qui n'allaient pas aux Slichot le matin. Il y a des hétérim. Le Rav en question, il a tous les hétérim de la planète pour ne pas aller au Slichot. J'ai tous les hétérim de la planète pour ne pas aller au Slichot. Et pour dire, voilà, c'est écrit noir sur blanc dans la halakha que moi, en tant que Rav, je suis pas obligé d'aller au Slichot. Et pourtant, j'y vais tous les matins. Pourquoi ? Parce que du fait qu'il y a cette autorisation, j'ai plus Yetzara de me dire, je suis obligé d'y aller, c'est compliqué. Donc du fait que la Torah vienne t'autoriser quelque chose qui paraît invraisemblable dans la paracha qui t'étsé, ça vient, entre guillemets, calmer ton Yetzara. Et on le voit par rapport à ce qu'on a dit entre Avraham et David. Le fait qu'Avraham n'était pas obligé de faire la Torah, il n'avait pas le même Yetzara que David Ameler pour la faire. Et le fait que David Ameler ait dû lutter contre ce Yetzara pour faire la Torah, la même Torah qu'Avraham, d'accord ? Eh bien, ça a fait de lui un plus grand sadique aux yeux de Dieu qu'Abraham a vu. Donc, le fait, toi, de venir et de te forcer le matin à te lever, te faire violence, pour faire les slichot, pour faire tes chouvas, pour faire ta tefila, pour faire attention à ce que tu manges, où tu manges, comment tu manges. T'arrives dans un restaurant, propriétaire du restaurant, il te dit, je t'assure, c'est kasher, c'est la méhadrine, il a pas de théouda de kashrout. Tu sais pas ce qu'il est en train de faire dans son restaurant. Mais lui, il t'assure, et tu le connais pas maintenant. Mais t'as envie de manger, tu t'assois ou tu t'assois pas? Tu manges ou tu manges pas? Tu comprends ce que je veux te dire? Le fait d'arriver à lutter contre ton Yetzerara, le fait d'arriver à dire non, parce qu'on te l'a imposé, c'est pas de ta propre volonté, c'est parce que la Torah t'ordonne. Le fait de le faire, ça fait de toi, à ce moment-là, un tzaddik. On dit, c'est quoi la différence entre le tzaddik et le rachat? Le fil du rasoir. C'est à partir du moment où tu te soumets à la volonté divine et que tu la mets en application et que tu oublies ta propre volonté personnelle. Il y a une batlout. Tu t'annules devant ton créateur, tu t'annules devant sa Torah pour une raison qui est beaucoup plus importante, qui est l'accomplissement de la Torah, qui apporte un équilibre spirituel, un équilibre personnel, un équilibre familial, un équilibre professionnel avec le temps, Bezrat Hashem, d'accord ? Et qui peut rapporter la, et qui en plus peut rapporter la Géoula dans ce monde, le fait de t'annuler pour ça, ça fait de toi un tzaddik à ce moment-là. Bezrat Hashem, qu'on ait tous le mérite d'être des tzaddikim,
amen,
d'arriver à lutter contre notre tzerara, d'arriver à se lever le matin pour la tfila,
amen,
à faire nos slichot, Bezrat Hashem, pour se renforcer, amen, pour Rosh Hashana, et qu'on ait un bon jugement cette année avec la Géoula, et que Dieu nous protège, sans oublier qu'aujourd'hui on voit la haine grandissante au sein du clan d'Israël entre les juifs. Que ce soit partout, tous les milieux sont concernés. Et à nos frontières, l'Iran, en Israël, qui vient s'installer tranquillement au Liban. La Corée du Nord qui envoie chaque semaine un petit essai nucléaire. Il faut qu'on se réveille. C'est que à travers l'amour gratuit de son prochain qu'on arrivera à réparer ce monde et à éviter que des catastrophes soient décidées dans le ciel et se mettent en place ici-bas dans ce monde. On peut arriver à faire de grandes choses, il suffit juste de se renforcer. D'accord ? Kikarov elecha davar meot, befifra ulvafra la asoto, que la chose est très proche de toi dans ta bouche et dans ton cœur pour le faire. Dans ta bouche, mets-le en exécution, commence à en parler, de vouloir faire tes shuva. Dans ton cœur, ressens-le. C'est à travers le fait de dire que tu veux faire des shuva, c'est le fait de le dire. D'accord ? Befifra ulvavecha. D'abord ta bouche, après ton cœur. Le fait de le dire que tu veux faire tes shuva, ça finira par s'ancrer dans ton cœur et te donner cette envie. De croire plus en Dieu, de croire plus en sa Torah, et de vouloir faire une véritable teshuva, mais il faut le dire. Bezrat Hashem, qu'on ait ce mérite. Bracha v'atzlacha
chacun.